entrer du mouchoir au cachet oriental. J'ai refusé totalement cette
question. Moi, j'ai essayé de vous confier au cachet oriental. Je pense qu'on peut, en concluant les deux, d'avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces numéros, les derniers bien sûr de la semaine. Parole aux auditeurs pour cette semaine. Parole aux auditeurs, un espace d'échange et de partage entre tous les Congolais sans distinction. Vous avez la parole ce vendredi 15 janvier 2010 pour vous exprimer sur le monument érigé en mémoire des grandes personnalités ayant marqué la vie politique de la République démocratique du Congo, personnalités congolaises ou étrangères. 50 ans après l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale, après les monuments de Patrice Emery Lumumba qui a précédé celui de Laurent Désiré Kabila, le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, est également à l'honneur. Par contre, les monuments des colonisateurs ont été déboulonnés il y a plusieurs années. Question, qui représente pour vous ce monument? Selon vous, que faut-il faire pour les entretenir, les protéger, et les garder bien sûr et les valoriser pour les générations futures? Vous avez la parole pour vous exprimer sur tout cela tout de suite. Et nous avons au téléphone dans cette émission le professeur Joseph Iongo, directeur général des instituts des musées nationaux du Congo et professeur en histoire des arts. Parole aux auditeurs, Marie-Chantal Lumba, à la réalisation de Timputo Odissé Ndiala, au contact avec les auditeurs. Alain Goy, à la technique, une émission supervisée par Nicole Ndaka. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocatif.net.
Comme j'étais en train de le dire, aujourd'hui nous nous penchons avec les auditeurs de Radio Capi sur les monuments érigés en mémoire des grandes personnalités qui ont marqué la vie politique de la République démocratique du Congo. Ces personnalités, qu'elles soient congolaises ou étrangères. Mais sachez qu'il y a trois monuments, d'ici qu'on va célébrer 50 ans d'anniversaire de l'indépendance. Le monument de feu président Laurent Désiré Kabila, feu Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo, et le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Et par contre, comme je l'ai dit, tous les autres monuments des colonisateurs ont été déboulonnés et nous allons en parler avec vous pour savoir qu'est-ce qu'un monument représente pour vous aujourd'hui, hein, et que faut-il faire pour valoriser les monuments et surtout les garder pour les générations futures. Hein. J'étais en train de dire que nous avons au téléphone le professeur Joseph Iongo. Il est directeur général des instituts des musées nationaux du Congo et professeur en histoire des arts. Et professeur, bonjour, je pense que je vous ai bien présenté.
Bonjour, monsieur Naël, journaliste. Je profite pour corriger d'abord rectifier mon nom. Il s'agit du professeur Joseph Ibongo, Yahabé Ibongo, directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, bien sûr.
Merci beaucoup, professeur, et surtout d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Parole aux auditeurs. Et professeur, d'une manière générale, que représente un monument dans la vie d'une nation?
Mais je voudrais d'abord commencer par donner une compréhension du concept monument en disant que le monument est un ouvrage d'architecture ou des sculptures destinées à perpétuer le souvenir d'un personnage ou d'un événement, monument aux morts. Et c'est aussi un grand ouvrage d'architecture, une œuvre remarquable, digne de durée. Et on peut être un monument de, c'est-à-dire présenter une certaine particularité à un degré extrême. Et dans le cas d'espèce, les monuments dans notre pays, c'est extrêmement important parce que ça permet de perpétuer, de rémémorer non seulement les personnages, mais aussi les événements qui ont eu lieu dans notre pays. Et il y a des personnages illustres que vous venez de citer, là, vous avez parlé du président Laurent Désiré Kabila, vous avez parlé du premier président de la République, Joseph Kasavubu, et du premier ministre, Emery Patrice Lumumba. Il y a d'autres personnages, bien sûr, on ne peut pas faire non plus des monuments pour tous ces enfants des personnages illustres dans le pays. Et l'histoire peut retenir l'un ou l'autre. Et certains autres participant justement au travail ou aux actions qu'ont mené ces personnages, ce n'est pas pour ça qu'ils le déméritent, mais l'histoire retient certainement des personnages pour lesquels on érige des monuments. et c'est des sources d'histoire, c'est aussi des repères, c'est aussi, des modèles et qui s'offrent aux générations présentes, mais aussi aux générations futures. Et en ce moment-là, le pays s'identifie et affirme son identité à travers justement ces événements ou à travers des personnages.
Merci, professeur, pour cette introduction de l'émission. Nous allons si bien ensemble avec vous, les auditeurs des Radio Capi aussi, qui vont nous parler de ce qu'ils pensent des monuments et nous donner aussi des témoignages pour les monuments qu'ils ont dans leur milieu respectif, comme Michel qui est à Mandaka, dans la province de l'Équateur, et Fiston qui est à Walikale, dans la province du Nord. Nous allons vous donner la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Michel, vous êtes en Mandaka dans la province de l'Équateur. Bonjour. Michel, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Michel, bonjour. Vous êtes en Mandaka dans la province de l'Équateur. Donnez-nous un témoignage. Est-ce que vous avez des monuments érigés dans la province de l'Équateur, par exemple en Mandaka, où vous vous trouvez?
Bon, à l'époque, il y avait des monuments, particulièrement des monuments politiques. Hein. On avait le monument du roi Baudouin. Il y avait aussi l'autre monument vers le port qu'on appelait Motoneiloa. Donc il y avait autant de monuments ici en Mandaka. Mais lorsque le deuxième République est arrivé, on a au moins détruit tous ces monuments. Donc ce sont des vestiges historiques qui sont partis. Et en dehors de cela, lorsque on est arrivé au deuxième République, il y a eu aussi d'autres monuments, érigés par ce régime. Malheureusement, à l'entrée de l'Arcel, on a tout détruit. Donc, au moment que nous parlons, nos enfants, les générations futures, ne sauront pas quelque chose sur le monument, même la signification des monuments. Donc, on a vraiment perdu ces vestiges historiques.
Michel, vous dites que les monuments ont été détruits et avec le changement de régime, mais aujourd'hui en Mandaka, il n'y a même pas une place, un carrefour aujourd'hui qui porte les noms pour se remémorer un événement passé, par exemple, en Mandaka.
Bon, nous avons le monument des martyrs de l'indépendance devant le commune de Wangata. Malheureusement, nous sommes intervenus pour vous dire la fois passée que c'est vraiment à l'état délabré. Vraiment, il n'y a pas de considération, donc on a abandonné ces monuments. Je crois que les autorités peuvent voir pour essayer un peu de restaurer ces monuments historiques.
Merci beaucoup, Michel, de tous ces propos et surtout les témoignages par rapport aux monuments qui ont existé en Mandaka. Il n'y en a plus aujourd'hui. La place de martyrs n'est pas entretenue, c'est délabré, abandonné. Et les cris que vous lancez, n'est-ce pas, en direction des autorités pour s'occuper de cette place publique. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir appelé de Mandaka dans la province de l'Équateur. Fiston, vous êtes à Walikale, dans la province du Nord Kivu. Fiston, bonjour.
Oui, bonjour. Mais je voulais juste savoir, je par rapport à la radio, d'accord. Nous sommes désolés avec notre radio. À ce moment, ça fait tout. Nous sommes désolés. Mais nous nous entrons dans notre sujet. Par rapport au monument,
Fiston, on a des problèmes de ligne avec vous. Hein. Peut-être que le temps que la réalisation, ça nous quitte, parce que là, on a le problème de bruit de fond. Le temps que vous puissiez vous mettre dans une bonne position, on va vous récupérer, Fiston, pour continuer. Vous vous plaignez que vous avez des coupures de radio à Walikale. Je pense que le service technique est en train de s'en occuper. Merci beaucoup de votre intervention. En attendant, la réalisation va vous récupérer pour mettre un peu de l'ordre sur votre ligne. Nous revenons à notre invité, professeur Joseph Ibongo. Vous avez suivi notre auditeur de Mandaka qui s'est plaint qu'avec le changement de régime, le monument sont en train de disparaître. Faut-il aujourd'hui dire qui décide, en fait, qui doit décider qu'on ait un monument dans la ville, par exemple? On se rend compte qu'avec l'arrivée de la Deuxième République, si le monument du temps de la colonisation a disparu, avec l'entrée de la FEDEL, les restes aussi a disparu, les noms ont changé. Et là, tout de suite, on voudrait savoir qui, en principe, doit décider de monument et de qui, normalement, doit bénéficier, n'est-ce pas, d'une érection de monument, professeur?
Oui, et vous avez suivi comme moi, effectivement, qu'en Badaka, on a détruit les monuments. Et on constate effectivement qu'à chaque changement des régimes, la tendance malheureuse est de détruire ce qui a précédé, notamment certaines images ou symboles représentant le régime précédent. Ce qui est bien dommage, effectivement, c'est que, comme l'a dit notre ami de Bandaka, les vestiges historiques partent, il n'y a plus de repères, etc. Et donc, c'est bien dommage. Et pourtant, cela participe de l'histoire de notre pays. Et à la question précise de savoir qu'est-ce qui décide, vous savez que notre pays a des lois, il y a une législation. Malheureusement, cette législation est soit dans sa lui-même des mécanismes de mesures d'exécution des lois, où ces lois ne sont même pas exécutées, ne sont pas suivies, etc. Donc il y a de l'anarchie de ce côté-là. Pourtant, la législation existe. Je parle, par exemple, de l'actuel qui est en vigueur, c'est l'ordonnance loi 71/016 du 15 mars 1971, qui est relative à la protection des biens culturels. Cette ordonnance découle justement du décret du 16 août 1939 relatif à la protection des sites, monuments et productions de l'art indigène. Et après, il y a eu évidemment d'autres ordonnances qui ont été prises, notamment et en 1947, 1950, de 50 en 59, et il y a eu une mise en place de commissions de classement des sites, monuments et meubles. Et on a même engagé une entreprise de faire l'inventaire de 1950 à 1959 à travers le pays, l'ensemble du pays, province par province, territoire par territoire, pour découvrir et noter et inventorier ce qu'il y a et ce qui est présent, et surtout le bien culturel qui présente du point de vue de l'histoire ou de l'art ou de la science d'intérêt public pour être protégé, pour être sauvegardé.
Professeur, si vous voulez y aller d'une manière concrète, bon, supposons, il y a eu la Deuxième République, il y a eu la transition de la Troisième République. Par exemple, maintenant, là, c'est le pouvoir de la Troisième République qui a pris la décision d'ériger un monument en mémoire du feu président, le premier président Joseph Kassavubu. C'est pour ça qu'on voudrait savoir qui, en principe, décide qu'on puisse ériger un monument. C'est au bon vouloir de celui qui dirige le pays, c'est au bon vouloir du gouvernement, ou bien c'est une tradition, ça doit être fait comme ça.
Oui, mais il s'agit de la loi, justement, parce que c'est la loi qui décide. J'ai fait allusion maintenant, par exemple, à l'ordonnance, où on doit créer une commission de monuments, d'érection des monuments. Donc, c'est finalement le gouvernement, la République, qui doit décider d'ériger des monuments. Donc, on ne doit pas le faire de manière cavalière ou n'importe qui se décide d'ériger un monument. Donc, il faut une commission d'érection des monuments, une commission des classements de ce qui existe. Donc, on ne peut pas les ériger de n'importe quelle manière. Donc, malheureusement, pour l'instant, cette commission n'est pas encore mise en place. La loi de 71 parle de la commission de classement, parle même de toutes ces différentes commissions, mais ces commissions, il y a eu des commissions ponctuelles qui ont été mises en place, mais finalement, il faut une commission qui reçoit une ordonnance du président de la République qu'il institue. Et cette commission, pour l'instant, n'existe pas encore. Nous avons initié effectivement des projets de commission et qui doivent suivre son cours normal, c'est-à-dire ça doit parvenir auprès du président de la République pour une ordonnance de commission de déplacement.
Oui, professeur, on va revenir à vous parce que Fiston de Walika de retour sur les antennes. Fiston, bonjour.
Oui, bonjour.
Maintenant, la qualité s'est améliorée. On vous écoute, Fiston, c'est par rapport au monument. Est-ce que vous en avez à Walika, Fiston?
Oui, bien sûr, nous les en avons aussi à Walikale, néanmoins, notre monument n'est pas bon comme ils font. Et vous savez qu'avec notre monument, si on mesure la longueur au moins 1,80 m.
Fiston, s'il vous plaît, le monument.
1,80 m.
Oui, Fiston, le monument représente qui? C'est le monument qui représente quelle figure de la politique.
Et d'ailleurs, c'est déplorable car ce monument ne représente aucune personne. Et des événements passés. Et néanmoins, nous suspigeons qu'ici, ça serait utile et important de mettre quelqu'un de l'histoire sous ces monuments-là. Mais qu'à Walikale, ce n'est pas le cas. Donc, on construit ces monuments sans pour autant, n'est-ce pas, mettre quelqu'un de l'histoire de l'État passé.
La place de ce monument n'a pas de nom, c'est une place abandonnée, ça n'a pas de nom, par exemple, comme Mandaka m'a parlé de la place des martyrs. Comment vous appelez cette place à Walikale?
Vraiment, il n'y a pas même de dénomination, mais plutôt serait dans le carrefour, et puis on dit voilà, c'est le monument, et puis on a donné l'emblème du drapeau congolais, et pendant qu'il n'y a personne de l'histoire de l'État passé, de nos républiques passées, et vraiment, jusqu'à maintenant, ça non, et ça même, je suis abandonné, si on peut le dire ainsi.
Ok, merci beaucoup. Je pense que la commission, si elle pourra mettre mise en place, elle pourra peut-être voir ce qu'il faut faire pour que ce monument puisse porter des noms. Nous revenons sur Kinshasa avec Martin de Marie. Vous êtes à Kinshasa, Martin de Marie, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de problèmes de monuments. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'un monument représente pour vous quand vous passez, par exemple, au niveau de l'échangeur ici à Kinshasa, vous voyez le monument de Patrice Emery, Lumumba et les autres. Qu'est-ce que cela représente pour vous, Martin de Marie?
Merci beaucoup pour la question. Moi, je voudrais d'abord recentrer les choses. Un peuple sans histoire, c'est un peuple qui manque de repères pour l'avenir. Et malheureusement, les gouvernements passés ont effacé l'histoire, que moi je considère que c'était un véritable crime pour la progéniture. Il faudrait réhabiliter d'abord cette histoire pour que nous puissions définitivement avoir des repères pour notre avenir. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Albertville. Il y avait le monument du roi Albert à l'époque. Et aujourd'hui, ces traces ont été complètement effacées.
Comment cette ville s'appelle? Quelle est la
Albertville.
Actuellement, comment elle s'appelle?
Voilà, l'histoire ne retient plus le nom d'Albertville. C'est Calémy, actuellement Calémy.
Merci.
Et il y avait à l'entrée de la colline d'État un très très bon quartier, un grand monument qui faisait la fierté de la ville. Et j'estime que pour réhabiliter cette histoire, il faut redonner les noms, les anciennes appellations, pour que les enfants de nos enfants retiennent que nous avons construit d'autres villes à côté des anciennes villes. À côté, par exemple, de la ville d'Albertville, on construirait la ville d'Académie. Et on remettrait tous ces noms-là, parce que j'apprécie l'intervention de celui qui est avec vous au studio, qui dit qu'il faut que nous ayons une histoire bien retracée pour que nous ayons des repères pour l'avenir.
Merci beaucoup, Martin de Marie. Vous pensez qu'il faudrait réhabiliter tous ces monuments, que cela puisse permettre.
Oui, nous allons continuer à bâtir une nation sur le vide.
Merci beaucoup. Merci. Nous avons aussi M. Molangui, le ministre provincial. Monsieur Molangui va prendre la parole tout de suite là, mais nous revenons d'abord au professeur. Professeur, quels sont les critères aujourd'hui de sélection par rapport au problème de monuments, comme beaucoup d'auditeurs s'inquiètent, par rapport aux places et par rapport aussi aux personnalités? Quels sont les critères de sélection qui doit en principe bénéficier d'un monument et quelle place en principe bénéficier d'une érection d'un monument ou par exemple dans une ville? Quels sont les critères sur lesquels on peut se baser aujourd'hui?
Les critères sont simples, je pense que du point de vue de l'histoire ou du point de vue de l'art, il faut qu'il y ait un intérêt public. Et vous voyez là qu'on revient tout le temps sur les repères de l'histoire. Eh bien, si une société s'entend dire que tel personnage a joué un rôle important par ses actions, par ses œuvres, et que pour se souvenir de lui, qu'il faille faire ériger en son nom ou en sa mémoire un monument, eh bien, c'est la société qui fixe cela, qui décide cela. Mais il faut qu'il y ait un intérêt public, qu'il y ait un intérêt, me semble-t-il, esthétique aussi. Qu'il y ait un intérêt du point de vue donc, de l'histoire, ou du point de vue de l'art, ou simplement du point de vue esthétique, etc. Donc, il y a cet intérêt, me semble-t-il, qui soit là un critère acceptable par tous pour que l'on retienne à faire ou à ériger un monument.
Merci, professeur. Nous allons aussi prendre Monsieur Molangui. Vous avez occupé le poste de ministre provincial dans le gouvernement de la province du Bandundu dans les années 60. Avec vous étiez ministre de l'Intérieur dans le Bandundu dans les années 60. Monsieur Molangui, bonjour.
Bonjour, Gétero. Comment vous allez?
Nous allons bien. Merci, on vous en prie. Vous venez de suivre là, les auditeurs qui s'inquiètent du fait qu'on puisse effacer l'histoire en détruisant, en déboulonnant les monuments qui ont existé. Nous allons parler avec notre invité pour nous dire où est-ce qu'on les a placés. Mais vous êtes un témoin vivant de l'histoire, ministre de l'Intérieur dans les banques dans les années 60. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, le fait que vous ne voyez pas les monuments qui ont vécu pendant les temps que vous étiez au pouvoir et maintenant qu'il n'y en a plus? Que faut-il faire? Qu'est-ce que vous ressentez, M. Molangui?
Bon, je ressens un sentiment tout à fait de regret, parce que ce sont des repères qui pouvaient bien servir à l'histoire, parce qu'il faut un passé pour préfigurer l'avenir. Bon. Ici à Kikwit, nous n'avons pas de monument proprement parlant. Il n'y a rien. Il y a tout simplement une stèle à ériger à l'époque du MPR qu'on appelle ce monument. Mais il y avait un monument néanmoins qui avait été détruit en buste devant l'hôtel des postes. C'était le monument de Léopold II à l'époque. Alors ce monument n'existe plus. On ne sait pas où est-ce que ça se trouve. Maintenant, on a parlé des monuments. C'est très bien. C'est une très bonne histoire. Mes prédécesseurs ont dit de très bonnes choses parce que ça constitue quand même le patrimoine inestimable pour la culture et l'histoire de tout un peuple. Mais il faut sa protection. La protection passe d'abord par l'éducation du peuple. Cette éducation au niveau scolaire, la sensibilisation civique, parler de monuments. Surtout, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, avec notre mentalité, on risque de tout détruire. Parce que d'aucuns verront à cela l'œuvre satanique, les autres vont dire en votement, des histoires comme ça, ils vont se mettre à détruire. Mais que ces commissions-là, qu'on les mette en œuvre pour voir ce qu'on peut faire dans des provinces, pas nécessairement des monuments, mais on peut arriver, par exemple, à ériger des avenues qui portent le nom des hommes qui ont travaillé, des hommes et des femmes qui ont travaillé pour ces pays. Cela dit, je viens, par exemple, à vous proposer une chose, parce que j'ai entendu le professeur parler des monuments. Et le 30 juin, le boulevard du 30 juin, part quand même de quelque part à Kinshasa. Mais j'aurais souhaité que à cet emplacement où se trouvait le monument à l'époque du roi Albert Ier, parce que ça s'appelait l'avenue Albert Ier, qu'on y mette pas des monuments, mais le fils qu'on fait graver les noms des pères de l'indépendance qui, eux, à la table ronde, suite aux fruits de ce qu'ils ont avec la délégation belge, ils sont arrivés à donner les noms du 30 juin comme date de l'indépendance de notre pays. Que leur nom à eux tous qui avaient participé à ces travaux d'une façon effective, les pères de l'indépendance, on les marque ouvertement à cet emplacement là où se trouvait le monument du roi Albert Ier qui se trouve à la gare centrale. Voilà, c'est une des propositions. Et deuxième proposition, il y a aussi des fils et des filles de ces pays qui ont été tués comme ça lors de la République dont nous connaissons. Je parle ici d'Anani, je parle ici de Mahamba, je parle de Bamba, de l'autre conjuré. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on refasse, même à titre posthume, les procès de réhabilitation de tous ces enfants du pays qui sont morts? Surtout au moment où on parle de la restauration. On ne peut pas parler de la restauration d'une nation sans évoquer les passés, sans connaître son passé et recommencer sur les centres. Voilà, du moins, la petite proposition que je fais. Alors, les mesures, je crois que les professeurs en avaient parlé.
Oui.
Et il faut vraiment frapper très fort à tous ces inciviques qui voudront du jour au lendemain détruire.
Merci beaucoup, Monsieur Molangui. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ministre de l'Intérieur dans la province du Bandundu dans les années 60. Merci pour votre proposition. Vous pensez que, au niveau de la gare centrale, là où était l'image du roi chevalier Albert Ier, son monument a été déboulonné. J'ai même cette image ici au studio. Vous pensez qu'il faudrait qu'on remplace à ce niveau-là les noms de pères de l'indépendance, parce que c'est le début même du boulevard du 30 juin qui rappelle l'indépendance. Votre proposition. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Bandundu, dans la province de Bandundu, bien sûr. Professeur Célestin, vous êtes à Lubumbashi. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et nous parlons de monuments dans la vie d'une nation. Comment les protéger, comment les valoriser pour les rendre utiles aux générations futures, hein? On est en train d'en parler aujourd'hui. Faut-il aujourd'hui ériger des monuments, par exemple à Lubumbashi, des personnalités célèbres du Katanga, ériger des monuments pour eux, ou soit des places publiques en leur nom pour perpétuer, pour garder l'histoire de cette province, professeur? Ou faut-il aujourd'hui, comme on le remarque, jeter tout, détruire tout à l'oublier? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, professeur, par rapport à ces dossiers des monuments?
Oui, ça c'est une préoccupation absolument intéressante. Je m'inscris dans la logique de tous les intervenants qui m'ont précédé. On ne peut pas constituer un peuple si on n'a pas une histoire. Et parmi les facteurs qui peuvent construire notre histoire naturelle, il y a tous ces personnages du passé, les Ngongoni Tété, les Lumpungu, les Albert Ier, tout, les Mobutu, tout ça, tous ces personnages doivent avoir, on doit leur consacrer des places, des édifices, des monuments qui puissent rappeler à notre peuple notre propre histoire. Et c'est bien dommage qu'on l'a constaté, on l'a dit, que le gouvernement, en changeant, cherche à falsifier, à consolider que leur... Et
Ah ouais, là on a le problème de ligne avec le professeur Célestin, la réalisation...
Ah bon?
Oui, professeur, vous êtes en ligne, ça va maintenant? Oui.
Professeur, oui, ça va maintenant.
Ok, vous pouvez y aller, allez-y, hein, parce qu'on avait des difficultés avec la ligne, allez-y s'il vous plaît.
Alors, je disais que je m'inscris dans la logique des intervenants qui m'ont précédé, et qu'il faut consacrer, il faut restituer les monuments qui ont été détruits pour une raison ou pour une autre, parce que c'est ça l'histoire de notre pays, on ne peut pas la falsifier, on ne peut pas la déranger, c'est ça l'histoire de notre pays. Donc, je m'inscris dans la logique de la construction, ou de l'érection, ou de la consécration de places publiques et de monuments, pour juste permettre à notre peuple de lire et de manière constante, quel que soit où on se trouve, l'histoire de notre pays. Merci. Il y a par exemple les grands personnages de ce pays dont on le trouve le monument à Kinshasa. Je prends par exemple Lumumba ou Laurent-Joseph Kabila. Mais le pays est vaste et il faut venir à Kinshasa pour voir ces gens-là, pour voir leur statut. Donc il faut penser, et la commission, comme a dit le professeur, mon collègue professeur, la commission qui doit faire de cela doit étudier le problème et on doit donner aux Congolais l'occasion de vivre leur histoire, sans de la période coloniale que dans la période post-coloniale. Notre droit et notre histoire. Voilà mon mot de conclusion.
Merci beaucoup, professeur Célestin. Je rappelle à nos auditeurs que vous nous avez appelé de Lubumbashi. Vous pensez qu'il faudrait prendre, n'est-ce pas, les monuments des héros nationaux à travers le pays, au lieu que ça reste seulement en Kinshasa? Quelqu'un qui est à Chikapa, quelqu'un qui est à Isiro a besoin de voir à quoi ressemble Patrice Emery Lumumba, son monument. C'est très important. Merci pour votre proposition. Franck, vous nous appelez d'Autriche, bien sûr, vous êtes à Vienne. Franck, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On a besoin de votre témoignage. Quelle est la situation des monuments, par exemple, là où vous êtes? On les déboulonne aussi, des générations en générations, on les garde, ou soit vous avez des monuments qui ont existé depuis des années à notre Autriche, Franck?
Oui, je crois que nous devons d'abord nous mettre d'accord que l'histoire d'un peuple, c'est pas si sûr, c'est pas vie, quoi. Parce que un peuple sans histoire n'a ni. Un peuple sans histoire n'a pas de référence dans la vie. Ici en Autriche ou en Allemagne, en France, où j'ai souvent été quelquefois, j'ai constaté que les monuments sont vraiment bien respectés du point de vue historique et du point de vue culturel. Donc, les monuments, c'est l'histoire, c'est la vie même des peuples. Il faut parfois passer dans des familles pour que ces gens se mettent à vous expliquer, par exemple, pourquoi nous avons mis ce monument là-bas, pourquoi on doit respecter ce personnage, pourquoi. Je crois que chez nous, les monuments, il y en a, mais le problème qui se pose, moi, je trouve que c'est un problème d'ordre politique et culturel. Pourquoi politique? il n'y a pas de continuité de tradition politique historique. Quand, par exemple, un chef d'État s'en va, quand il est chassé par un coup de poids, son successeur arrive, il a d'abord la tendance de tout écraser. Donc, il cherche à tout ignorer. Alors que, pour chaque personnage historique, nous devons aussi le mettre d'accord. Et même s'il a mal fait, même s'il a posé des actes qui n'ont pas répondu aux attentes du peuple, et il a aussi posé quelque part des actes qui pouvaient honorer le même peuple. Je vais me référer à ce qui s'était passé en 97 avec le départ de Mobutu et l'arrivée de Kabila. Qu'est-ce qui s'était passé à Brazzaville? On nous a toujours raconté que cette année présidentielle avait été pillée. Mais je crois que ce qui s'était passé à Brazzaville, si c'était ici en Europe, ou dans le monde occidental, on aurait pu garder tout cet année-là et on pourrait faire de cet année-là des lieux touristiques. C'est de l'histoire. Et quand on se promène à Kinshasa là-bas, on voit à peine certaines images qui donnent encore à penser, mais il y en a combien à travers le coin du pays. J'espère que le conseil qui venait de réagir du Katanga l'a bien dit. Pour quelqu'un qui n'est pas né à Kinshasa, pour qu'on lui parle de Lumumba, il doit absolument se rendre à Kinshasa pour voir quelques deux, trois monuments de Lumumba, ou bien la politique pouvait aussi se mettre d'accord, le gouvernement pouvait aussi se mettre d'accord pour dire que dans chaque province, à un endroit historique, nous devons ériger le monument de tel personnage historique. Je crois que ça, c'est d'abord un problème de politique, de tradition politique historique, mais aussi de culture.
Merci beaucoup.
Et ce monument-là, on peut arriver à enseigner pourquoi on doit ériger le monument de tel personnage à tel endroit. Mais parfois, secondaire ou primaire, c'est pas toujours bien explicité.
Merci.
Ce qui fait que même les enfants qui grandissent de nos jours, même moi, c'est peut-être parce que je suis un peu curieux, mais il y en a aussi de mon âge qui n'arrivent pas à bien expliquer ce que je vous dis maintenant. C'est qui est un peu à regretter, quoi.
Merci beaucoup, Franck. Vous nous avez appelé de Vienne en Autriche. Nous allons revenir au professeur tout à l'heure là.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Radio Okapi se penche aujourd'hui sur le monument qui ont marqué l'histoire du pays, qui commémore, n'est-ce pas, des grandes personnalités qui ont marqué la vie politique. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les garder, les protéger pour les générations futures? Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Nous en parlons avec le professeur Joseph Ibongo. Professeur, vous avez suivi beaucoup d'auditeurs, mais permettez qu'on vous demande, parce que vous êtes le directeur général des instituts des musées nationaux. Il y a par exemple le monument de chevalier Albert Ier qui était à la place de la gare centrale. J'ai l'image ici au studio. Il y a par exemple le monument qui était entre Matadi et Kinshasa, là où passait le sentier des caravanes, ceux qui portent des décharges courbées, seulement n'est plus. Il y a par exemple la plaque qui a commémoré le 50e anniversaire du chemin de fer Matadi-Léopoldville, et là aussi c'est par où Stanley est passé, ce monument n'est plus. Il y a par exemple la statue du roi Léopold II sur son destrier qui n'est plus. Il y a la statue de Stanley qui est en train de regarder les poules aujourd'hui, poules Stanley, actuelle poule Malebo. Tous ces monuments, toutes ces statues ne sont plus. Vous êtes les directeurs des instituts des musées nationaux. Est-ce que vous pouvez indiquer aux auditeurs aujourd'hui s'ils ont besoin de voir à quoi ressemblait Albert Ier, à quoi ressemblait Léopold, à quoi ressemblait, où est-ce qu'ils peuvent aller pour voir ces monuments qui ne sont plus exposés sur la place publique? Où est-ce qu'on les garde aujourd'hui, professeur?
Oui, et merci. Je suis d'abord très heureux de l'intérêt qu'on manifeste à tous les auditeurs à travers la République, même de l'étranger d'ailleurs. Je suis très heureux également que l'on souligne le fait de revisiter notre histoire et que l'on refiche de nouveau, on recadre un petit peu ses repères pour le futur. Et sur cette préoccupation des monuments coloniaux, faut-il les réexploiter? Et où sont-ils, etc. Je suis vraiment heureux en tant que responsable de gestion du patrimoine culturel national. Eh bien, cette préoccupation, je la partage. Et tous les professionnels de musée, tous les patrimoniteurs avec moi, et tous ces amis de la culture également. Le lycée de la culture des arts est dans son ensemble, est très heureux et embarqué pour le temps avec le commissariat général du cinquantenaire, à cette prise de conscience de notre histoire, notamment pour ces lieux et ces lieux de mémoire, ces sites et ces monuments.
dites-vous, bien que nous sommes dans l'année jubilaire, et nous fêtons les 50 ans d'indépendance, toutes ces questions ont été débattues et on en a un programme également, tout un chronogramme. Et pour l'instant, le commissariat général du cinquantenaire a donc prévu d'ériger un certain nombre de monuments, notamment à la place de la gare centrale, disons, sur le boulevard du 30 juin. Au début, s'y trouvait le monument Albert Ier, mais aussi un autre monument en face du Palais du Peuple, et un autre, comme on l'a attesté pas très longtemps, à la place Kifuanza, et pour ériger le monument en mémoire du président Kassavubu. Les monuments coloniaux, pour la plupart, ou au moins ceux de Kinshasa, certains, se retrouvent actuellement entreposés au Mont Galima, à la direction générale de l'étude des migrations du Congo, où se trouvent donc les collections nationales. Nous avons là entreposé le monument Albert Ier, le monument de Stanley, le monument équestre du roi Léopold II, et des bustes, la reine des reines Astrid et autres. Et donc, malheureusement, certains autres monuments, notamment, vous avez fait allusion à celui qui se trouve à la gare centrale, ou bien celui de du chemin de fer, on ne le retrouve plus. Et c'est là, justement, où l'on peut, justement, revenir sur cet aspect d'éducation de notre peuple, de toute la société, pour la prise de conscience, d'abord politique en matière de protection du patrimoine, ensuite la connaissance des expériences des autres États, ce qui peut enrichir notre système juridique en matière de conservation et de protection du patrimoine, mais aussi, troisièmement, un engagement de chacun, partout et à tous les échelons, pour la protection des patrimoines. Parce que l'Institut des migrations du Congo, qui est une institution certes publique, n'a pas tous les moyens possibles de protection du patrimoine. Donc, à tous les échelons, la protection des biens culturels, des monuments pour l'instant que nous en parlons, ne relève pas à la seule institution des musées nationaux, mais relève de chacun pour protéger. Ces monuments sont des monuments publics, on les met à la place publique. Et donc, ce monument côtoie l'ensemble de la société. Et c'est chacun, les plus vieux, petits et vieux, qui côtoient les monuments. En dehors même des responsables, des conservateurs du musée. Et donc, c'est chacun qui, de par son éducation, de par sa sensibilisation, de par de l'intérêt de son patrimoine et de son histoire, qui doit préserver le patrimoine et qui doit le protéger.
Merci.
Les communautés locales, les communautés décentralisées, donc les entités décentralisées, ont en leur pouvoir la protection du patrimoine. Et donc, par exemple, pour la ville, le gouverneur de la ville, avec ses bourgmestres, les communes qui doivent protéger les monuments. En région, en province, et il en est de même en province. Et dans le cas justement de la célébration des 50 ans, il est prévu, et je le dis évidemment sur la conduite des autorités du comité du commissariat général du 50e, mais il va y avoir des répliques de certains monuments dans les provinces. De sorte que les monuments qui sont érigés ici, il y aura des répliques en province pour que la société, la population, parce que c'est en fait, c'est à qui de droit, et donc c'est la communauté, la société qui est le plus concerné, sont eux qui leur revient de disposer le patrimoine et les monuments. Donc,
merci.
Il va y avoir des répliques en province. Donc, on peut s'appeler, j'espère que les moyens seront donnés au commissaire général du 50e pour ce vaste programme de d'érection des monuments, mais aussi des répliques en province.
Merci.
Pour la réhabilitation des sites et des monuments à travers les provinces.
Merci.
Nous, en tant qu'institution, évidemment, de gestion, nous sommes aux côtés. D'abord, nous sommes une institution spécialisée du ministère de la Culture et des Arts, et donc nous sommes au service pour tout ce travail, d'abord, de recensement, d'inventaire, d'études des monuments, des sites et des objets à protéger, mais aussi en collaboration avec différents acteurs de la conservation et de la restauration, élaborer des programmes de restauration, mais aussi l'animation des monuments, l'animation du patrimoine.
parce que le conservateur que nous sommes devons contribuer à la mise en valeur de ce monument en impulsant ou même en soutenant les différentes actions qui sont menées
merci
en
parlant
de l'animation des monuments.
Merci donc, beaucoup, professeur. On va revenir à vous. Professeur, on vous garde en ligne hein, parce qu'il y a aussi quelques auditeurs comme Jojo qui nous appelle des Kinshasa, Arsène qui est à Kikuit. Mais dis-moi pour les premières préoccupations des auditeurs par rapport en province, par rapport aux provinces, vous venez de les dire, hein, les auditeurs ont bien suivi le professeur Joseph Ibongo, qui est le programme de la célébration du centenaire de l'indépendance, prévoit d'ailleurs la réhabilitation des différents monuments, des différents lieux historiques, hein, pour permettre à ce que les générations qui n'ont pas connu les années d'avant la colonisation, les années 60, les années de l'indépendance après l'indépendance, puissent savoir à quoi tout cela ressemblait. On va retrouver le professeur, le temps aussi de prendre Jojo qui est ici à Kinshasa. Jojo, bonjour.
Bonjour, Radio Capi, bonjour, bonne année à vous.
Merci beaucoup, Jojo. Que faut-il faire aujourd'hui pour valoriser les monuments, les sites historiques hein, et surtout pour les générations futures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos propositions, Jojo?
Voilà, je suis très content que vous ayez abordé ce sujet aujourd'hui. Parce qu'en fait, hein, c'est bien ériger les monuments, les placer dans les coins des avenues et tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai suivi le monsieur qui venait d'intervenir là, il a parlé des programmes et comme d'habitude ici dans notre pays, les fonds qui sont sortis pour faire tout ça et tout et tout. Mais le problème des monuments, écoutez, il y a une fuite au niveau de l'information, de la formation. Parce que pour aujourd'hui, qu'un enfant, disons, nous tous aujourd'hui nous sommes des adultes, mais nous avons tous commencé par être des enfants. Ça veut dire quoi? Pour qu'en grandissant, nous connaissions la valeur d'un monument et de son histoire, cela commence dès le bas âge au niveau de l'école avec les cours d'éducation civique. Aujourd'hui, dans le programme scolaire, l'éducation civique n'existe pas. Moi, aujourd'hui, je sais au moins que représente un monument et par rapport à l'histoire d'un monument, surtout le monument de mon pays. Mais nos enfants, aujourd'hui, il n'y a pas le cours d'éducation civique au niveau du programme scolaire. Il faut d'abord commencer par là. On peut aujourd'hui ériger tous les monuments. On commence à expliquer aux gens comme ça, vaille que vaille, ça sera difficile. Donc, pour cette histoire, c'est que moi je dirais, on doit commencer d'abord en amont avec le cours d'éducation civique. Et aussi, moi je dirais ceci, le Congo n'a pas été bâti aujourd'hui. Hein. Il y a eu des hommes qui ont fait le Congo. Ces hommes-là ont fait le Congo en bien comme en mal, mais je ne vois pas pourquoi, chaque fois qu'il y a un changement de régime, on commence à débaptiser des avenues, on commence à débouliner des monuments et tout, en plus, on doit ériger les monuments, pas pour le plaisir de les ériger, mais on doit les ériger pour que les gouvernants actuels hein, se basent sur les sacrifices de ceux-là pour qui on a érigé ces monuments-là, c'est pourquoi ils se sont battus. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez parlé du monument de Stanley. Stanley a une valeur historique dans notre pays. Il a payé même de sa vie, je crois. Si on regarde le monument de Lumumba aujourd'hui, il a le point levé. Ce point levé-là signifie quelque chose. Mais est-ce que vous pensez combien de Congolais aujourd'hui connaissent réellement l'histoire de Lumumba et le sens du point levé qu'il y a sur le monument? Non, moi je pense que notre gouvernement doit d'abord commencer par informer les gens sur tous ces gens-là pour qui on a érigé des monuments. Comme ça, la jeunesse, parce que même la plupart des beaucoup de grandes personnes que vous voyez là, ne connaissent même pas très bien le sens de plusieurs monuments. Mais c'est des gens qui s'occupent des ministères, des belles gestions et tout. Mais c'est des gens qui le font comme ça pour le business. Aujourd'hui, vous voyez un petit enfant, un Américain, qui vous parle des amendements. Les amendements là-bas chez eux, ils les apprennent dès l'école primaire. Vous comprenez? Et c'est comme que quand les États-Unis sont attaqués, c'est pas. Ces enfants-là se sentent concernés, ils sont prêts à aller se battre. Parce que dès le bas, on leur apprend à aimer leur nation. Il y a des monuments, il y a le Panthéon, il y a tout ça. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On peut ériger tous les monuments juste pour embellir comme ça la ville, mais il faut que ces monuments-là représentent quelque chose. Vous comprenez? Le monument de Moussa Laurent Désiré Kabila, ça c'est un très grand personnage de mon pays. Beaucoup de gens doivent connaître le combat, quel est le combat de ce monsieur-là. On doit organiser des défenses sur ce genre de monument, expliquer aux enfants. C'est aussi une façon de réveiller le sens patriotique auprès de la jeunesse. Aujourd'hui, par manque d'informations, il n'y a pas de monument, les gens s'en foutent, bon, les gens sont préoccupés à manger au jour le jour, parce que c'est une raison au jour le jour. C'est comme ça que le Congolais n'a plus de personnalité.
Merci, merci beaucoup Jojo. Merci beaucoup Jojo. Vous pensez qu'il faudrait un programme d'éducation scolaire hein, au niveau de l'éducation civique, et cela commence au bas âge, qu'on inculque déjà aux enfants l'idée, la mentalité du respect des personnalités, du respect des monuments, de l'histoire même, que cela soit enseigné, comme ça les gens vont les transmettre de génération en génération, plutôt que ce soit comme des actions spontanées qui seront plus vite oubliées. Avant de passer la parole à Arsène Kétakupit, nous voudrions préciser pour quelques auditeurs qui nous ont écrit, hein, qui veulent savoir actuellement, depuis je crois 48 heures, il y a une photo qui circule sur Internet avec un homme nu sur un monument. C'est pas ici en RDC, le monument, c'est pas celui de Patrice Emery Lumumba qui est ici à Kinshasa, parce que beaucoup de gens ont fait circuler cette photo, soi-disant que c'est cet homme est sur la photo de Lumumba. Nous avons même plein d'auditeurs qui nous posent la question là-dessus. Nous voulons vous préciser que cette photo, c'est pas en RDC, c'est pas Kinshasa. Hein. Le monsieur qui est sur le monument, c'est pas le monument de Patrice Emery Lumumba. Vous verrez qu'il y a la différence sur cette photo. Le monument a deux doigts. Soulevé en signe de victoire, deux doigts, mais la photo de Patrice Emery Lumumba, c'est le point, vous voyez qu'il y a la différence pour les auditeurs qui nous ont posé la question par rapport à cette photo qui circule sur Internet. Merci beaucoup aux auditeurs qui sont intéressés à ça aussi. Arsène, vous êtes à Kikwit dans le Bandundu, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Dans 10 minutes, on va finir cette émission. Quelles sont vos propositions aujourd'hui hein, par rapport à la valorisation de monuments, des sites historiques hein, pour les générations futures par exemple, ce qu'il faudrait faire pour aider ceux qui sont dans le Bandundu à avoir un peu un œil de recul sur l'histoire à travers les monuments, Arsène.
Ok, merci beaucoup. Je crois que le monument, d'abord, c'est un œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est quelque chose qu'il faut faire bien et beau. Deux, le monument, c'est un message qu'on envoie aux générations futures. Malheureusement, ici chez nous, à Kikwit, nous n'envoie pas des monuments, mais j'ai suivi les auditeurs qui m'ont précédé et le professeur qui est en train de parler avec nous ici à la radio. Moi, je vais proposer ceci. Nous avons toute une histoire. Ben, on dirait qu'on se base l'histoire du Congo ne commence qu'aux années 60 de l'indépendance. L'histoire du Congo commence il y a très longtemps. Il y a les rois Makoko, il y a les rois Stanley, plutôt le roi qui a reçu qui va Stanley, le roi Nganima, ici chez nous à Kikwit, il y a les rois Moudikwiti. Nous devons reprendre notre histoire, nous devons reprendre notre conscience et puis notre histoire. À part les hommes, il y a aussi des événements. Des événements qui ont marqué ce pays, qu'on peut toujours représenter par un monument. Alors, il faut le faire. Mais, comme les autres auditeurs l'ont dit, il y a des histoires où on essaie un peu de cartes, on essaie de passer. C'est difficile d'effacer l'histoire. Parce que quelque part, il y a toujours quelqu'un qui écrit ou quelqu'un qui laisse un message. Nous voyons, par exemple, on a érigé le monument de Lumumba, on a érigé le monument de Kabila, on est dans les programmes d'ériger le monument de Joseph Kasavubu, mais on oublie aussi le maréchal Mobutu. Le maréchal Mobutu a contribué aussi dans l'histoire de ce pays, depuis l'époque de l'indépendance jusqu'à ce qu'il a reçu le pouvoir. Je pense à faire. Il faut écrire cette histoire-là correctement. Quel est le bien qu'il a fait dans ce pays? Quel est le mal qu'il a fait? Il y a des événements qui se sont passés dans ce pays, que ce soit à Kine, que ce soit à l'intérieur. Nous avons ici, par exemple, un mythe ici à Kikwit. Un mythe qui est resté, les gens qui ne savent pas qui est cet mythe de l'histoire de Kissa, du chef Kongo Pemba. C'est tout un mythe. Mais ce mythe-là est venu de quelque part. Ici, à Kikwit, on parle beaucoup trop de Kongo Pemba. Le Kongo Pemba, c'est qui? C'est un événement qui est arrivé ici à Kikwit qu'on doit mémoriser. Et parce que c'est un symbole que les gens essaient d'exploiter dans le mal comme dans le bien.
Merci beaucoup, Arsène. Désolé, vraiment, on a passé des temps parce qu'il y a aussi d'autres auditeurs et on tend déjà vers la fin de l'émission. Mais aussi, quand même, de toutes les propositions, vous pensez qu'en dehors des hommes célèbres qui sont connus sur le plan mondial et international, mais il y a aussi des grandes figures hein, connues à travers les provinces, on peut aussi les élever pour que les gens ne puissent pas oublier leur histoire. Nous allons demander au professeur Joseph Ibongo, vous êtes notre invité dans cette émission. bien sûr, mais il y a aussi un problème de l'assainissement de l'environnement. Prenons par exemple l'élargissement du boulevard. On a vu la portée d'eau hein, qui était quelque part, je pense, sur le rond-point Sosimat, et ça a été déboulonné. Il y a aussi au niveau du 24, l'avenue à texte 24 novembre, il y a aussi. Ok, on a enlevé. Ça dit qu'il y a autant, mais avec tous les travaux, si on veut élargir la route, est-ce que cela ne va pas aussi poser des problèmes à chaque fois enlever un monument? Quand on a besoin des travaux, on enlève un monument. Que faut-il faire? Faut-il aujourd'hui les mettre dans un coin quelque part où on doit tous aller les voir? Ou faut-il les mettre sur les carrefours demain quand on a besoin d'assainir, puis on les enlève, professeur?
Oui, effectivement, et là c'est un problème de placement. Et quand un monument est classé, eh bien, il ne peut pas être détruit. Il ne peut être détruit ni déplacé ou même être modifié. Et tout ça, c'est la loi qui fixe. Vous savez que la loi qui existe, tout le monde n'en est pas au courant, tout le monde ne connaît pas la loi. Et il y a eu justement certaines ces actions qui ont été posées, parfois, allant à l'encontre de la loi qui existe. Ou même d'ailleurs, lorsque on détruisait ou on déplaçait ces monuments, si on pouvait s'adresser ou même ne plus que prendre contact avec le ministère de la Culture des Arts qui a des organes techniques, eh bien, on ne pouvait pas le déplacer et le déposer pêle-mêle. Donc, il y a aussi à impliquer d'autres techniciens et en la matière quand on veut prendre une ou l'autre décision. Et bon, ici, c'est vraiment une décision qui a été prise pour des grands travaux, mais néanmoins, les monuments qu'on a déplacés, et nous voulions pour l'instant, et si on ne le réintègre pas dans l'environnement, mais au moins qu'ils reviennent alors carrément aux collections nationales pour en faire un plein air qui regrouperait aussi bien les monuments du passé historique, coloniaux, et que le monument est contemporain.
Professeur, dans 30 secondes, parce qu'on va donner la parole au docteur Richard et Junior, hein, qui sont en ligne, ce sont les derniers auditeurs, mais dans 30 secondes, par rapport aussi à l'assainissement de l'environnement, par exemple, la place des artistes sur Victoire, ce sont les endroits presque sales, s'il faut le dire, ils ne sont presque pas entretenus, c'est tout le monde qui marche dessus, on passe. Quelles sont les mesures aussi par rapport à l'encadrement? On a vu une fois des témoignages du fait que les gens passaient sur là où il y a aujourd'hui le monument des mairies Patrice Lumumba, les gens vont récupérer les gens de fleurs là-bas pour les amener au cimetière, des choses comme ça, c'est la profanation, s'il faut utiliser les termes. Comment aussi faut-il garder, protéger, et surtout par rapport à l'assainissement de tous ces milieux, la professeure?
Oui, je pense que là, la réponse, on peut la trouver au niveau de l'éducation de la société de manière générale, mais aussi au niveau des mesures à prendre au niveau de la ville. Il faudrait que la ville, qui a géré son territoire, prennent un certain nombre de mesures de protection de ces lieux publics ou de ces sites. Mais en même temps, à faire un travail d'éducation. Vous avez entendu là un auditeur revenir sur des éléments d'éducation. Si le peuple n'est pas éduqué en matière de protection et de conservation, de préservation de lieux publics, bien, on peut actuellement faire ces monuments, ériger des monuments, mais ça va être peine perdue parce que le jour au lendemain, ces monuments seront spoliés ou quoi. Et donc, il faut, en même temps qu'on érige les monuments,
aussi les gens
faire de l'éducation de la société ou du public à préserver le monument. Donc, c'est un travail d'éducation de la société.
On va revenir à vous pour conclure cette émission. Docteur Richard et Junior, hein, on a passé des temps. Hein. Désolé, vous aurez à chacun une minute. Hein, Docteur Richard, un peu en bref, juste une minute, pour sonner à la fin de l'émission. Quelle est votre contribution?
Ma contribution, celle-ci. Donc, les monuments sont l'expression du génie d'un peuple pour écrire l'histoire avec des précisions. Et puis, je voulais ajouter, par exemple, que les monuments ne sont pas muets. Par exemple, le stade de Matisse. Matisse de quoi? C'est là où on avait fondu Bamba Mahamba et Anani, plus Kimba. C'est ce que je peux ajouter.
Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, docteur Richard. Vous pensez qu'il faudrait que le monument puisse parler quand on dit, par exemple, stade de martyr de l'indépendance, c'est très bon qu'on ajoute un nom pour compléter que l'histoire puisse parler ainsi. Junior, vous êtes à Kisangani, on termine avec vous dans 30 secondes. Junior, quelle est votre contribution par rapport
à la génération? Oui, ma contribution, surtout à ce qui concerne la ville de Kisangani. Hein. La génération actuelle ne connaît pas Harry Mortor Salé.
Or, d'après l'histoire, c'est du pierre des Pères, la ville de Kisangani, baptisé par les berges restant les villes. C'est ce que je veux. Nous avons, par exemple, le premier gouverneur Jean Finat, que la génération actuelle ne connaît pas, tout ça. Vraiment, je regrette. Nous voulons que la ville de Kisangani, les enfants actuels, reconnaissent les bienfaits de Henri Montostalé, qui a découvert la ville de Kisangani après avoir franchi des chutes infranchissables.
Merci beaucoup, Junior, parce que vous pensez qu'il faudrait revaloriser Kisangani aujourd'hui, surtout ériger quelque chose en mémoire dans
Henri Montostalé.
Merci beaucoup. Massou Boudelissalalu pense que c'est inutile de mettre, d'ériger des monuments, c'est de l'idolâtrie. Pour lui, il pense que c'est pas bien. Junior de Kisangani, c'est vous, je crois, on vient de vous avoir. Professeur, on va terminer avec vous pour clôturer cette émission et la conclure dans 30 secondes parce que nous sommes à la fin par rapport à ce sujet. Professeur Joseph Ibongo.
Oui,
on termine avec vous l'émission dans 30 secondes parce que c'est la fin. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs pour terminer ce sujet sur le monument?
Eh bien, c'est un sujet très important et me semble-t-il d'ailleurs le mois de janvier a été placé sous le thème le Congo, État et Nation, nos héros et nos lieux de mémoire. Parce qu'il fallait donc se rappeler en ces mois de janvier dans le cadre de la cinquantenaire. Des résistances, des sacrifices,
merci
des
beaucoup.
Martyrs pour la sauvegarde et de l'identité nationale.
Merci beaucoup, professeur. Nous vous disons merci d'avoir accepté de participer dans cette émission. Parole aux auditeurs, vous retrouve le lundi prochain pour parler des moustiquaires imprégnés. Quelle est la place qu'occupe la moustiquaire imprégnée dans la lutte contre le paludisme au Congo? Merci et au revoir à tous.